بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. Chers frères en islam, nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité de nous réunir pour étudier quelques versets de son livre. Et vous vous rappelez que la dernière fois, on avait vu les versets qui nous permettent de réaliser que tout est dans les mains d'Allah Azza wa Jal et que la vérité, elle sera visible de tous le jour de Qiyam. À travers le verset « Fasatou busiru wa yubusirun bi ayyikum al maftoun » Autant les Mécois accusaient le prophète alayhi salat wa salam de différentes choses, autant ils le critiquaient, autant ils osaient dire des choses déplaisantes sur le prophète alayhi salat wa salam. Dans ce verset, Allah Rabbul Izzah rappelle que, en finalité, c'est le jour de Qiyama que tu verras et que eux aussi ils verront, qui c'est qui était vraiment dans l'égarement comme ils le prétendaient. Et Allah Azza wa Jal rassure le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous rassure également que Inna Rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi, qu'Allah Rabbul Izzah sait mieux qui c'est qui s'est égaré, wa huwa a'lamu bil muhtadin, et Allah sait mieux qui c'est qui est bien guidé. Même si dans ce monde, on n'arrête pas de nous faire croire ou de nous faire entendre que la pratique de notre pratique religieuse, peut-être elle est incompatible avec certaines valeurs. On va dire une pratique religieuse qui n'est pas correcte, oui, elle serait incompatible. Autrement, c'est une parenthèse, les valeurs que notre prophète nous a inculquées à travers « Wa innaka la'ala khuluqin azim » Mais ces valeurs-là, elles sont acceptées par toutes les civilisations, toutes les philosophies, parce que ce sont des valeurs qui vont dans le sens de l'inéité, de la fitra. Donc, c'est les meilleures valeurs qu'une nation, qu'un peuple, qu'un mouvement politique ou qu'une idéologie a pu prôner, ce sont les valeurs prônées par le prophète alayhi salat wa salam. Donc même si on entend plein de choses, on doit être persuadé que Allah sait mieux. Même si vous êtes dans une assemblée où il y a 100 personnes, vous êtes le seul qui a la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah dans le cœur, et que 99 personnes vous pointent du doigt en disant que c'est la religion des terroristes, c'est la religion des intégristes, la religion des... Qui encore intégrisme, enfin, tout ce qu'on nous dit, intégrisme, terrorisme, radicaliste, d'accord ? Et ainsi de suite, fanatique, barakallahu fik, enfin, Allah musta'an, et ainsi de suite, dans ton petit cœur, qui parfois souffre, ce cœur, nous restons des êtres humains, le cœur est sensible aux critiques, le cœur est sensible à ce qu'on vous dit. Parenthèse, dans la parenthèse de la parenthèse, un frère m'interpelle, il me pose la question, il me dit, voilà, il y a telle personne qui dit des choses vraiment déplaisantes sur moi, dans le commerce, dans le domaine du commerce et tout. Il m'accuse de certaines choses, mais pas devant moi, d'accord. Le riba, la médisance. Il m'a dit, est-ce que c'est normal que ça m'affecte? Est-ce que je dis, il est tout à fait normal maintenant. Je dis de ne pas te venger, de ne pas rendre le mal pour le mal. Mais le fait que la personne me demande clairement, après je mélange deux cas différents, mais ça allait dans le même sens. Ils analysaient leur cœur. L'autre, c'était quelqu'un qui me dit que voilà, il y a beaucoup de critiques parce qu'il est en train de revenir vers la religion et beaucoup de critiques de la part de la famille, d'accord? Et donc, il me dit que ça m'attriste. Est-ce que le fait d'être attristé, c'est une preuve que je n'ai pas accepté l'épreuve? Donc, avant de lui répondre, j'ai pris un doliprane. Ensuite, un décontractant musculaire. Après, j'ai pu lui répondre. Et en fait, c'est quelqu'un qui recherche la perfection de la foi. Il avait entendu le programme, une fois, de l'Al-Salihin, Babu Sabr, les quatre catégories de personnes face à l'épreuve, et le summum, c'est Ibn Uthaymeen, rahimahullah, qui avait fait un commentaire qui était extraordinaire, exceptionnel sur la patience du croyant face à l'épreuve. C'était vraiment des paroles à écrire une main idhab avec de l'or. Il a dit que le summum, c'est celui qui remercie Allah d'être éprouvé. Il a une épreuve, il remercie Allah d'être éprouvé parce qu'il sait que Allah Rabbul Izza est en train de l'honorer, en train d'élever son grade par l'épreuve. Un grade qu'on ne peut pas atteindre par nos prières ou par nos actions. Allah t'envoie une maladie ou une situation où tu es en difficulté. Ben, ce croyant qui a atteint ce haut degré de foi, il sait que, un, ça c'est pas le hasard, d'accord? Il sait que ce n'est pas directement la méchanceté des gens. Ces gens qui sont méchants avec toi, ce sont des intermédiaires. Des intermédiaires qu'Allah a utilisés pour le mal, parce qu'ils ont l'envie de faire le mal. Donc ils sont des intermédiaires. Mais ce qui t'arrive, cela émane de la volonté d'Allah. Et Allah attend de toi une réaction. Et celui qui dit que, celui qui reconnaît que ça vient d'Allah, il remercie Allah qui est en train de l'éprouver, peut-être que je vais atteindre des degrés, ça c'est le plus haut degré de foi. Alors ce frère me demandait, je suis l'objet de beaucoup de critiques et ça m'attriste. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas atteint le plus haut degré de foi? Moi je dis, shay'an fa shay'an. Il faut aller doucement, hein, étape par étape. Il dit qu'il est tout à fait normal d'être attristé quand t'es proche, t'accuse de, on va pas dire fanatisme, mais c'est quelqu'un qui commence à faire ces 5 salats. Alors que dans un contexte où il n'y a pas une grande pratique, d'accord? Et à certains points, il essaie, machallah, de rectifier un petit peu le tir et de revenir un peu sur les erreurs passées. Il dit que d'être attristé, ça c'est quelque chose de tout à fait normal. On ne peut pas lutter contre la nature humaine. Donc de même si nous on est attristé, moi ça fait c'est des choses qui m'attristent profondément, lire un post sur les réseaux sociaux, ou un commentaire, ou un homme politique, ou un écrivain, ou un journaliste qui dit quelque chose de vraiment d'injuste sur ce que nous croyons, sur nos valeurs, sur notre foi, notre iman, sur notre pratique religieuse, ou sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est tout à fait normal d'être attristé. Et donc, ce cœur qui est attristé, ben c'est un cœur qui est éprouvé. Donc, d'une certaine façon, toutes ces personnes qui critiquent l'islam et que ça nous atteint d'une certaine façon, ben, alhamdoulilah, ce sont des personnes qui nous aident d'une certaine façon. Ils nous aident pour le akhirah parce qu'on est sabir. On fait preuve de patience pour quelque chose qui nous unit tous. C'est, on est en train de défendre notre iman, notre foi, d'une certaine façon. Donc, ce qui est rassurant, c'est que quand tu ressens quand tu as ce sentiment de frustration, sache que Allah, huwa a'lamu biman dhalla 'an sabili wa huwa a'lamu bil muhtad. Allah, il sait exactement qui c'est qui s'égare, qui fait le mal, et Allah sait qui suit le droit chemin, qui est dans la guidée. Et toi, donc, quand ces 99 doigts te pointent et que tu es le seul de l'assemblée qui a la foi, qui a iman ou billah de ton cœur, même si le monde entier se réunit contre toi, sache de ton cœur que Allah est avec moi parce que je m'efforce de suivre le droit chemin. Maintenant, comment être sûr qu'on suit le droit chemin? Regardez les lumières si elles sont bien allumées. Quelles sont les lumières qui doivent éclairer notre chemin, Nabil? Aïwa. Mais je voulais dire, quelles sont les dalils? Quelles sont les lumières, c'est-à-dire qui te permettent de reconnaître entre le bien et le mal, ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé, ce qui te rapproche d'Allah de ce qui ne te rapproche pas d'Allah? Al-Kitab ou As-Sunnah. Le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À chaque pas que tu fais, chaque décision de ta vie, regarde, est-ce que tu vas dans le bon sens? Est-ce que tu vas dans le sens de la parole d'Allah? Est-ce que tu vas dans le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ne regarde pas est-ce que tu vas dans le sens de tel homme pieux, de tel grand savant. C'est-à-dire, le but c'est pas de suivre les gens pieux, les savants. Oui, mais sache, essaie de voir la vérité de toi-même aussi. D'accord? Une personne me posait une question, je pense qu'on fera tafsir un peu dans un instant, c'est une question qui était très intéressante. La personne cherche un peu, trouver une voie pour se rapprocher d'Allah, il dit qu'il voulait essayer, enfin, il y a certaines façons de prêcher et tout, il m'a dit que ben, lui, il dit « Allahumma arina al-haqqa haqqa wa arzuqna attiba'a wa arina al-batila batila wa junna wa junubna attiba'a » Alors, il dit que « Oh Allah, montre-moi la vérité » Fais en sorte que je vois la vérité comme étant la vérité et que je puisse suivre. Et que je vois la fausseté comme étant faux, comme étant mauvais et que je puisse m'en éloigner. Et après, j'ai dit bismillah. J'ai dit non, c'est pas suffisant. Parce que les grands ulama, les grands savants dans leur recherche de la vérité, je donne un exemple qui était un peu costaud. J'ai dit quand ils essayaient de voir est-ce qu'on peut prendre les narrations, enfin, tous nos commentaires de versets du Coran sont basés sur les paroles du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que c'est du lourd quand même. Dieu pourrait dire que ce verset, ça veut dire telle chose. On doit s'appuyer sur les commentaires, les hadiths du Prophète sallam, ce que les sahaba ont rapporté du Prophète sallam. Donc il faut être sûr de soi. Mais vous savez, tous ces hadiths qui sont cités par les savants, ben, il y a eu un travail d'authentification, de vérification à la base. Ce qu'on appelle al-jarh wa ta'dil, et ainsi de suite. Les savants ont été voir les narrateurs, les chouyouch. Ils ne se sont pas contentés de dire « Oh, mashallah, celui-là, là-bas, 27,9 cm. 27 cm et 9 mm, c'est le record, ces hadiths sont acceptés. Regarde son bazou, son kafni, quel que soit le dialecte, hein, son kandu, alors s'il y en a qui parlent japonais, il y a d'autres termes aussi. C'est pas parce qu'il porte le thawb, le bazou, le kafni ou le kandu de cette façon, que forcément c'est wali min awliya Allah, jamais de la vie. Aucunement. Il vérifiait le parcours. Ilmi. C'est pas le commun des mortels qui le fait, hein. Les grands savants, les narrateurs de hadith eux-mêmes, ils vérifiaient les sources en étudiant la biographie des personnes qui rapportent les hadiths. Et certaines personnes, même s'il y avait des signes de piété, mais s'il y avait quelques péchés de leur vie, ont considéré que la narration n'était pas acceptée. Ça veut dire que, at-tadqiq, le fait de rechercher la vérité, de s'efforcer de voir la vérité, ben ça, c'est un principe extrêmement important. Cette rigueur, ça nous permet d'avoir une religion authentique. Autrement, si on écoutait ce que tout le monde disait, ou qu'on mettait tout ce que quelqu'un dit, celui que quelqu'un ait une grande barbe et que quelqu'un soit éloquent ou qu'il parle de religion, c'est forcément la religion, et on écrit ça, ben, on va dans tous les sens. Et ça, c'est la garantie d'authenticité d'une religion. C'est quand le Prophète me dit, je vous ai ces deux choses, restez accrochés. Et vous ne serez jamais égarés. Kitabullahi wa sunnati, le livre d'Allah et ma sunna. De cette façon, même si le monde entier te pointe du doigt, comme on l'a dit, tu sais que tu es dans le droit chemin. Et dans ton cœur, sache que même si tout le monde te dissuade de continuer à prier, à adorer ton Seigneur, à avoir ces convictions que Allah, c'est lui qui sait mieux, qui est Al-Muhtadin. Si on t'accuse de plein de choses, mais ce qui nous intéresse, c'est être parmi les Muhtadin, ceux qui sont bien guidés. Parce que c'est ce que je demande en disant, Ihdina, guide-moi vers le droit chemin, et Al-Muhtadin, c'est ceux qui sont bien guidés. Donc, Allah, il sait. Je suis le livre d'Allah et la sunna du Prophète, donc je suis dans le droit chemin, et Allah sait qui c'est qui est dans le droit chemin. Hada. Donc, après ces versets, donc on était au verset 7, à partir du verset 8 jusqu'au 15, Allah Azza wa Jal va maintenant citer les défauts, les manquements qu'il y a dans les personnes qui accusent le prophète alayhi salatu wa salam. Tout ce qu'ils ont dit à propos du prophète sallam, Allah Azza wa Jal a démenti en affirmant que c'était le meilleur des hommes, avec le meilleur des comportements. Maintenant, Allah Azza wa Jal dit au prophète sallam de ne pas suivre ces gens-là, parce que ces gens-là, ils sont comme ça, en citant leurs défauts. Et ce sont des défauts, lorsque les sahaba entendent, ils les voient réellement dans la vie de ces gens. Comme le verset, la surah Tabat Yada Abi Lahab Yom Watab, ben, c'était adressé à Abu Lahab et à sa femme. Les sahaba, vous voyez de qui on parlait. Et là, toutes les personnes qui luttaient contre le prophète alayhi salatu wa salam, ben, ils avaient en eux ces défauts. Comme on avait expliqué il y a quelque temps, la personne qui refuse la vérité, c'est que intérieurement, il y a at-takabbur, il y a de la fierté, il y a de l'orgueil, il y a le refus de voir la vérité, le refus de se rabaisser. Il y a certaines personnes qui avaient perçu la vérité dans la prophétie de Nuh alayhi salam, mais ils ne voulaient pas suivre Nuh alayhi salam. Pourquoi? Qui voit le sens du verset? Aïwa. Il disait à Nuh alayhi salam, wattaba'aka al-arwalun. Il dit que, oh Nuh, tu veux qu'on te suive alors que les pauvres et les faibles sont avec toi. Et ils auraient préféré qu'il y ait des riches et des nobles. Là, on aurait suivi le chemin. Mais quand il y a des pauvres, il y a des faibles, tu dis que mais on va pas suivre. C'est-à-dire que la vérité, ils savaient qu'il y avait la vérité, mais il y avait de l'orgueil, il y avait de la fierté. Et ça, c'est ce qui pourrit le cœur d'un homme. L'islam, c'est la religion au cœur propre. On ne se rapprochera jamais d'Allah uniquement avec nos prières, avec nos longues barbes, avec nos hajj, nos umrah et le Coran dans le cœur. Si ce cœur reste sale et reste noir, si ce cœur est rempli de mauvaises intentions, si ce cœur est animé de mauvais sentiments à l'encontre de ton frère musulman, si tu vois quelqu'un qui a quelque chose que tu n'as pas, hasad, tu es jaloux. Si tu entends que quelqu'un a obtenu quelque chose, ça t'énerve, ça t'agace. Ça veut dire qu'il y a nifar de le cœur. Ça, c'est des signes d'hypocrisie. Le croyant aime pour son prochain ce qu'il aime pour lui-même. Alors que l'hypocrite, lorsqu'il entend qu'un croyant obtient quelque chose, ça le met mal à l'aise, à gratter. Il y a l'énergie qui lève et c'est la jalousie, hasad. Donc, la pratique religieuse, la piété, ce qu'on appelle la piété, ça, c'est indissociable du qalb salim, du cœur qui est pur, qui est propre. Dans quel programme on avait expliqué ça dernièrement? Riyadus Salihin, me semble, je ne sais plus, on avait expliqué quelles doivent être les qualités qui animent le cœur d'un musulman. Dans à Montreuil, concernant l'aumône, la sadaqa, quand quelqu'un donne, les actions qui remplacent la sadaqa. Quelqu'un n'a rien à donner, ben un sourire, c'est une sadaqa. Rencontrer ton frère musulman souriant, c'est une sadaqa. On avait expliqué comment est-ce que ça fait du bien. Tu démarres ta journée, quelqu'un sourit. Franchement, ça, c'est un petit rayon de soleil. Alors que quand tu vas dans le bureau, tu vois le gars, il fait une tête de je sais pas comment on pourrait dire, de Quasimodo, de Dracula, il te regarde comme un... Ça te démoralise. Et le sourire, mashallah, ça apporte de la gaieté. Et c'est une aumône, c'est une sadaqa. Tu fais salam à ton frère, tu attrapes sa main avec muhabba, avec sincérité. Ça aussi, c'est une aumône. Tu vois quelque chose qui peut gêner la route et ainsi de suite, tu l'enlèves. C'est-à-dire que le din, notre religion, elle va de ce sens. Apporter le bien à tous ceux qui sont autour de nous. Apporter le bien à ceux qui nous entourent. C'est pas juste parfaire ta relation avec ton créateur. Ce n'est pas que ça la religion. Autrement, ce serait une religion complètement déséquilibrée. Parfaire ta relation avec ton créateur et parfaire ta relation avec les gens. Et d'ailleurs, si ces petites actions sont aimées par Allah, ça prouve que le mu'min se doit d'apporter le bien. Et on avait conclu avec un hadith qui montre bien ce sens-là. Vous plantez un arbre. Qui c'est qui s'est planté un arbre encore? Ce sont des gestes. Hein? Savez-vous planter des choux ou des litchis, des mangosées? On ne sait même plus. Si on me donne des graines, je me demande, on fait quoi avec quelle profondeur? Qu'est-ce que vous faites avec la terre? J'ai déjà essayé. Hein? Voilà, il n'y a rien qui est sorti. C'est-à-dire, il y a des choses que nos ancêtres faisaient, nous on ne sait plus faire. Vous plantez un arbre fruitier. Même les animaux qui vont manger de cet arbre, sadaqa pour vous. Hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens qui vont se servir, sadaqa. Parenthèse, la 12e. Personne disait aujourd'hui que voler la passer, la vole tout mon mangue de la nuit. C'est un pied d'un mangue José. Au vu du prix du kilo du José en ce moment, qui est abusé, bon, on ne va pas entrer dans ce débat, c'est abusé. Bref, il y a des grands frustrés là. Et donc, et que la personne attend que ça pousse, que ça, il y a, enfin, je sais pas, une façon de voir quand c'est prêt. Et il dit que dans la nuit, le voleur est passé, il a pris tout. Il a dit, monsieur, je suis révolté, c'est inacceptable, c'est monsieur. Bon. On est en train de se s'éparpiller, tellement que je sais même plus pourquoi. J'ai ouvert cette 14e parenthèse concernant sadaqa. Oui, barakallah. Comment vous suivez, même si moi je ne suis plus. Ben, voilà, ce voleur qui a volé tes mangues, là, ben, il va manger. Ou il va donner à des proches, il va revendre. Sache que ce qui mange sera une aumône pour toi. Il n'y a rien qui est perdu. Et les fruits qui tombent, soit c'est encore sur le pied, les oiseaux mangent, ou que ça tombe, il y a des insectes et ainsi. Toute créature d'Allah qui profite de ton geste, c'est une aumône pour toi. C'est-à-dire qu'Allah est satisfait de toi parce que tu as été un intermédiaire pour le rizq, pour la subsistance. Ça te donne une idée de l'humanisme qu'il y a dans la religion. Le fait de procurer du bien à la création d'Allah, Azza wa Jal. Si tu n'as pas ce désir de faire du bien autour de toi, sache que la foi n'est pas vraiment rentrée dans ton cœur. Parce qu'il y a une apparence de foi, c'est une foi de mosquée, une foi de ramadan, une foi de pèlerinage, mais le vrai iman n'est pas encore rentré dans le cœur. On ne pourra jamais être un bon mu'min tant qu'on n'est pas vraiment un amour universel de notre cœur pour ceux qui nous entourent. Donc, les défauts cités dans les versets 8 à 15, فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ et il n'obéit à aucun Non, le 8. N'obéis pas à ceux qui crient au mensonge. Hey, ceux qui ne croient pas, qui refusent de croire en Allah, qui refusent de croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui refusent de croire en l'au-delà. Et par analogie, certains savants disent que c'est celui qui refuse des principes de la religion. Al-mukadhibin, celui qui dément. Et puis on va reprendre chacun de ces points dans un instant en faisant une liste, inshallah. Fala tuti'il mukadhibin. Waddu law tudhinu fayudhinun. Non, là c'est une description. Ils aimeraient bien que tu transiges avec eux afin qu'ils transigent avec toi. Hey, ils souhaiteraient que tu fasses un pas vers leur croyance et que tu délaisses progressivement wa tatruku ma anta alayhi min al-haq et que tu délaisses ce en quoi tu crois, la vérité qui fait partie de ta vie, que tu le délaisses au fur et à mesure. Et certains mécréants avaient proposé au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour tu adores, un jour tu suis une religion, un jour on suit ta religion. Et là, Allah Azza wa Jalla avait révélé quelle sourate? Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Je n'adore pas ce que vous adorez. Ça n'a pas empêché le Prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir un comportement exemplaire avec ces gens. Même quand il lui faisait du tort, quand il déposait les branches épineuses près de sa maison, le soir, et que lorsqu'il sortait, il se blessait, il ne les a jamais insultés à Mecca, ni maudit, il disait, « Ayye jiranin hada. Quel est ce lien de voisinage, oh, telle famille, telle tribu, telle personne. » Même s'il y a « la a'budu ma ta'budun », dans le culte, il y a une séparation totale. Ce que vous adorez, ce que j'adore, on n'est pas dans la même religion. Mais le respect y est. Respecter la personne, lui donner ses droits, mais dire clairement, être persuadé que ce sont des pratiques différentes. Celui qui adorait les statues et notre dîn, l'adoration d'Allah l'unique, certes, il n'y avait aucun point commun. Donc, c'était là l'ordre reçu par Allah Azza, l'ordre donné par Allah Rabbul Izzah, à notre prophète alayhi salatu wassalam, la a'budu ma ta'budun. Et là, Allah Rabbul Izzah rappelle qu'il souhaiterait que tu délaisses un peu ta vérité pour pencher vers ce qu'il prêche. Mais le mu'min ne recule pas d'un millimètre dans sa croyance. Ça, il n'y a pas de divergence. Et je crains que viendra une époque, parce que les discours sont tellement, bon, surveillés, donc ils peuvent surveiller comme ils veulent, hein. Tant qu'on reste de le Coran et la Sunna, il n'y aura jamais un discours qui peut être qualifié d'intégriste. À moins que ce soit des oreilles de le sens de l'organe, d'accord, des oreilles qui sont écorchées à la base et qui recherchent des paroles qui peuvent être interprétées de différentes façons pour leur donner un sens qui te sera préjudiciable. Mais là, ce sont des hypocrites, des personnes qui sont mal intentionnées. Mais si on reste dans ce que notre dîn prône, il n'y a aucun discours qui appellerait vers la violence. Et permettez-moi de faire un petit clin d'œil à Cheikh Shakil que tout le monde connaît à Paris. Une fois, il avait fait un programme avec les jeunes au mois de Ramadan, il nous avait rappelé quelque chose de bien. Il parlait de la guerre sainte du djihad. Il dit que c'est vraiment le concept qui fait peur. Bien sûr que ça fait peur. Ça fait peur parce que ça a été exploité par des menteurs. Et ça a été exploité par des gens qui prônent le mensonge. D'accord ? Quand quelqu'un fait exploser une bombe à Paris ou dans une boîte de nuit ou dans une discothèque, et s'ils appellent ça la djihad, arrêtez là, qui parlent d'autre chose, ils ont d'autres intentions, mais franchement, le minimum de connaissances religieuses que nous avons, ça nous permet de dire que, arrêtez, c'est pas comme Badr, ça n'a aucun rapport, d'accord? Et donc il dit qu'il y a un courant de savants contemporains, j'aime bien ça, les religieux contemporains. Et donc, ils donnent une autre interprétation. En fait, ils essaient de changer l'étymologie. Ils disent que non, djihad, c'est djihad ou nafs. Il n'y a pas de guerre en islam. Pourquoi pas? C'est amusant. Les journalistes sont contents. Les philosophes, après avoir cogité, ils digèrent. D'accord? Ils acceptent. Mais je suis désolé. Il a dit qu'on ne peut pas trafiquer les textes. Parce que si vous dites devant une assemblée qu'il n'y a jamais eu de guerre en islam, il suffit qu'il ouvre livre de Sirat, en l'an 2 de l'Hégira, il y a bien eu Badr. En l'an 3 de l'Hégira, il y a bien eu Uhud, et ainsi de suite. Donc, attendez, il y a double discours. Il n'y a pas de double discours dans la religion. Il a dit, c'est comme si tu ramasses la poussière, tu mets sur un tapis. Et à un moment donné, tu marches, tac, tu trébuches. Et quand tu lèves le tapis, dis-moi pas que c'est pas vrai. Il y avait toute cette poussière. Donc, il ne faut pas cacher la vérité. Le djihad a existé, mais c'était un contexte particulier. Il faut être capable de l'expliquer clairement. Autrement, si on évite, on n'en parle pas, ça reste un sujet tabou, ben, il y aura d'autres qui vont exploiter ce concept et vendre cette marchandise, excusez-moi, à des prix ou d'une façon qui est totalement déviante. Quand ils vont dire que lutter contre ceux qui font du tort à nos frères dans tel pays, lutter contre le corrigionnel dans notre pays, c'est un djihad. Aucun savant de la religion, j'allais dire même d'aucune religion, aucun savant d'aucun mouvement ne rejoint ce genre d'avis. Et ce qui est important, c'est d'avoir un discours clair. On est en train de faire la bataille des coalisés, d'accord, avec les élèves en sirat. Et parenthèse, dans Riyad al-Salihin, Inch'Allah, ce lundi, il y a un passage que j'attends avec impatience et commencer à lire, à préparer. C'est tout simplement magnifique. Et c'est avec beaucoup d'impatience que j'attends lundi pour pouvoir relire et Inch'Allah voir ça ensemble. Quand il y a les deux positions par rapport à la bataille des coalisés, les croyants, comment ils perçoivent? C'est une situation catastrophique. Ahzab, tous les tribus arabes ennemies avec les Quraysh et certaines tribus qu'on connaît, se sont alliés pour faire un siège autour de Madina et le but c'était d'égorger hommes et enfants, chaque croyant, à commencer par le prophète sallam jusqu'au dernier enfant musulman. C'était ça leur objectif, en finir totalement et définitivement avec les uns. Et c'était une situation très compliquée. Et à travers Bataille al-Ahzab, il y a un verset qui décrit la position du croyant. Et Ibn Uthaymin, rahimahullah, il fait un tafsir magnifique de ces versets. Et il fait une déduction. Il dit que dans toutes les situations de la vie, si la foi n'est pas entrée dans ton cœur, il suffit de te bouger un peu, que tu sors de tes petites habitudes, de ton petit confort, tu te retrouves dans une situation inhabituelle où tu es face à ce qu'on appelle l'adversité, que tu perds les pédales. Et que tu te rends compte que tes prières, tes ramadans et tes hajj ne te permettent pas de comprendre la sagesse d'Allah dans l'épreuve. Alors que si la foi est dans le cœur, tu réalises. Vraiment, magnifique. Et la position des hypocrites, comment est-ce qu'ils décrivent? Ils disent, ouais, cette religion nous a promis monde et merveille. Le royaume des Romains et des Perses. Et voilà que nos voisins sont en train de nous assiéger, on va tous mourir bientôt. Il dit que celui qui est hypocrite ou qui a un cœur faible, qui a un iman qui est faible, il réagit de cette façon face à l'épreuve. Il commence à dire n'importe quoi, à dérailler complètement. Donc, il est très important, donc, par exemple pour Ahzab, expliquer qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu une guerre. Être assiégé ou tu as des gens qui s'unissent pour essayer d'exterminer ta tribu et tout, parce qu'il n'y a pas une bataille. Donc, il faut être capable de montrer clairement les choses et ne pas avoir de double discours, ne pas faire de fausses interprétations, ne pas changer la religion, mais montrer la clairvoyance, que cette situation, elle n'existe pas là. Donc, il n'y a pas à utiliser de tel mot ou de tel terme. Donc, on doit être intransigeant concernant la pratique et concernant les croyances. Maintenant, être intransigeant, ça ne veut pas, c'est pas synonyme de communautariste, attention. Si quelqu'un, il prend ce passage, tac, il fait un copier-coller, il dit voilà le discours communautariste. Être intransigeant de nos croyants. Aucunement. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il vivait avec la a'budu ma ta'budun, mais son comportement avec les chrétiens de Najran, avec les Yahouds de Qaynuqa, Nadir et Quraïda, et les autres, avec Abdullah bin Salam, et ainsi de suite, avec ce jeune enfant juif qui habitait près de sa maison, qui était malade. Un comportement exemplaire comme nous-mêmes, on ne le ferait pas. Et avec les polythéistes, comment il a pardonné aux gens qui lui ont fait du tort lors de la conquête de Makkah, alors que dedans, il y avait la A'budu ma ta'budun, être exigeant dans les croyances et dans la pratique, mais un cœur en or avec les gens. Ma pratique et ta pratique sont différents. Là-dessus, on ne rigole pas, on ne joue pas, on ne mélange pas les choses. Mais le comportement reste exemplaire. C'est ça la réalité de la religion. Et c'est ça que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Beaucoup de gens pensent que être pieux, c'est se renfermer sur soi. Le mu'min qui vit dans une mosquée, qui reste, qui tourne auprès de ses frères, et celui qui vit dans la société, qui vit les réalités de la vie, et qui donne une belle image de la religion à travers son comportement, je vous assure que Lot, il est beaucoup plus productif. Et Allah est le seul juge. Lot, il est plus productif parce qu'il est en train d'exporter la beauté. Il est en train de faire le tablir. Il est en train de propager. On propage par les actes. On peut propager dans un ta'lim, mais propager à l'extérieur par le noble comportement. Subhanallah, c'était ça la façon des sahaba. Ridwanullahi alayhim ajma'in. Hada. Wala tuti' kull halafin mahin. On va juste passer en revue ces défauts cités dans ces versets 8 à 15. Et n'obéis pas. Non, et n'obéis à aucun grand jureur méprisable. Les termes, la traduction, elle n'est pas top. Honnêtement, il y a des termes qui sont un peu. Qui retraduisent pas vraiment le sens. Donc, ne pas suivre donc ces personnes qui mentent de leurs promesses, celui et dans cette interprétation qui ont un cœur faible, d'accord? On expliquera c'est quoi la prochaine fois. Également, Hamaz, la personne qui fait beaucoup al-irtiab de riba, de médisance. Également, Masha'im binamim, les personnes qui font namima. Namima, comment on peut traduire ça? C'est ceux qui aiment colporter. Prendre des nouvelles et dire à d'autres personnes dans le but de semer là, la haine est là, zizanie. C'est une grande spécialité. J'allais dire local, mais une grande spécialité de beaucoup d'insans, beaucoup d'êtres humains qui ont le cœur faible. On va voir les hadiths qui mettent en garde contre ça. Manna'i lil khayr mu'tadin athim. Les personnes qui, lorsqu'ils refusent de faire n'importe quelle chose de bien, et ils refusent de faire profiter les autres de tout ce qu'il y a de bien. Et lorsqu'il y a la possibilité d'aller vers le ithm, vers le haram, ils y vont sans hésiter. D'accord? Et les autres, et également le cœur dur. Tout ça, ce sont les défauts qu'il y avait dans les personnes qui décriaient, qui, subhanallah, qui étaient contre le prophète sallam. Et ce que nous devons retenir, on va lister ces défauts, inshallah, la prochaine fois. Ce qui est important, c'est de voir et de faire attention de ne pas développer ne serait-ce qu'un seul de ces défauts. Parce que ce sont des traits de caractère qui sont détestés par Allah et qui habitaient le cœur des munafiqines, des hypocrites et des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si dans ma vie, je passe l'essentiel de mon temps libre quand je suis entre camarades ou en famille à faire le riba, la médisance, et que j'éprouve un plaisir à faire la médisance ou à colporter des nouvelles d'une famille à l'autre, pour semer pour créer la haine, la zizanie, on doit faire très attention. En plus d'être un péché identifié, on connaît les mises en garde, les hadiths, sachez que c'était les défauts des ennemis du prophète sallam, et c'est des traits de caractère qui sont détestés par Allah, Azza wa Jal, et cela a été cité dans la sourate, donc Al-Qalam, donc on va essayer de les passer en revue, Inch'Allah, la prochaine fois qu'Allah, Azza wa Jal, nous accorde les qualités du cœur, les qualités du croyant, qu'Allah nous accorde un cœur ouvert, un cœur rempli d'amour pour notre prochain, un cœur rempli d'amour pour Allah Azza wa Jalla en premier, qui se manifeste par les a'mal salihah, par les saintes prières, par une assiduité dans les actions, et ensuite un amour pour l'ensemble de la création d'Allah Azza wa Jalla, qui se manifestera, inshallah, par le noble comportement, comme c'était le cas du prophète alayhi salatu wassalam, avec femmes, enfants, voisins, proches, éloignés, personne de même confession, personne de différentes confessions. Et c'est là le vrai message de notre dîn. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifoun. Wa salamun ala al-mursaleen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Zakum al-akhir.